voix off. Qui a jamais cru que le général de Gaulle étant appelé à la barre devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes?
En termes mythologiques, la personnalité de De Gaulle recoupe quatre mythes. À la fois Alexandre le Grand, le guerrier, jeune, dynamique, qui va renverser la table.
L'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler.
Le mythe de Moïse, le prophète.
Moi, général De Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
18 juin, la guerre n'est pas finie, en pleine débâcle. Le mythe de Cincinnatus, vieux général à la retraite qu'on vient chercher pour sauver le pays qui part en quenouille.
Je vous ai compris.
Et Solon, le législateur qui crée la bonne constitution.
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
On gomme la réalité au profit des mythes, tout en gommant la réalité du personnage, ancré dans son temps, qui, avec moult moyens plus ou moins condamnables, effectivement, va gouverner, diriger et faire des choix.
La dimension d'un géant, d'autant plus gigantesque qu'on est gouverné par des nains.
Mais ça c'est sûr, quoi qu'on puisse penser du général de Gaulle, depuis la fin de son règne, aucun autre politique ne lui est parvenu à la cheville. Salut, c'est JBD, c'est la voix off et bienvenue à toi dans cette spéciale de Gaulle, général mythifié dont la momie est depuis un bon moment récupérée et détournée par à peu près tout le monde. Or, comme on le dit souvent dans cette émission et comme on va aujourd'hui le redire, au devoir de mémoire, nous préférons le devoir d'histoire. Et l'histoire, c'est une science humaine qui étudie les faits. L'histoire, c'est pas fabriqué avec des souvenirs ou avec des opinions. Or, De Gaulle a su forger sa propre légende. Et si l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la tendresse pour le rebelle du 18 juin 40, qui aura su tirer profit des combats de la résistance pour fédérer derrière lui l'armée de la France libre, une armée d'ailleurs essentiellement constituée de Noirs et d'Arabes, vu qu'entre 40 et 44, la plupart des Gaulois étaient prisonniers des Teutons, si l'on ne peut s'empêcher d'aimer le De Gaulle de Londres, on se souvient moins du dictateur putschiste qui arrive au pouvoir sur les épaules des militaires lors du coup d'État de 1958 qui instaure ce fabuleux régime de la Ve République qui marche si bien, comme chacun sait. On en parle aujourd'hui avec les copains profs d'histoire géo. Salut André.
Bonjour à tous.
Salut Daniel.
Bonjour à tous.
Salut Cédric.
Coucou à tous.
Alors Cédric, ça tombe bien, autour de cette table, nous avons un de nos professeurs d'histoire-géographie, en la personne de Daniel, qui a rencontré le général, en vrai. Bon, Daniel, tu n'avais que 12 ans, je crois.
Oui, je suis très vieux, mais à l'époque, je n'avais que 12 ans. Enfin, je l'ai rencontré, il ne m'a pas reconnu, hein, je dois dire. Je devais être collégien, c'est à l'époque où il était président de la Ve République, il faisait des tournées en province, et il était venu dans la ville de Clermont-Ferrand. J'avais simplement un sentiment... L'histoire passait devant moi et j'étais déjà passionné par l'histoire. Je voulais aller voir l'histoire en marche.
J'en reviens à cette affection qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir pour l'homme du 18 juin.
Mon idée n'est pas de déboulonner la statue et de dire du mal, des choses affreuses, etc. Mais de voir à quel point aujourd'hui on oublie de faire de l'histoire et on tombe dans une espèce de mémoire hagiographique qui enlève toutes les aspérités et donc on fait toute la réalité d'un homme et d'un personnage. On ne peut pas enlever à De Gaulle, effectivement, une colonne vertébrale, intellectuelle, politique, un sens de sa propre mission. Il a une fierté personnelle, il a une vision personnelle. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais ce concert de louanges déréalise totalement le personnage, son histoire. Et du coup, on arrive à des mensonges qui ne sont pas neutres. Ce sont des mensonges qui consistent à valider des choix politiques, économiques, actuels du petit groupe d'hommes qui nous dirige.
Daniel.
Ceux-là même qui se livrent à la géographie la plus éhontée appartiennent à la famille intellectuelle et politique qui au fond l'ont dézingué. En fait, les vrais gaullistes, les vrais partisans de Gaulle ne se livrent pas à ce genre de dérive hagiographique. C'est les autres. Ils encensent l'icône parce qu'ils veulent la récupérer à leur profit.
Alors qu'ils ont broyé une bonne partie de son héritage et politique, des choix politiques qu'il a fait, qui, comme tout choix politique, on peut y adhérer ou les refuser.
Voir Macron, qui dans son immense complexité célèbre la figure du général de Gaulle, c'est hallucinant. C'est l'anti-de Gaulle absolu.
On avait déjà eu Sarkozy chantant les louanges de Guy Môquet, des soi-disant historiens là, qui défilent sur les médias, n'en sont même plus à faire de la géographie et de l'histoire frelatée, puisque là, avec des personnages comme ce monsieur Ingrao, estampillé CNRS, là on n'en est même plus à dire des mensonges sur de l'histoire qui a eu lieu, là on en est à l'éloge de l'Uchronie. Hein, c'est-à-dire que ce monsieur Ungawa, Ingrao... On est à faire l'éloge de l'étude de l'histoire qui n'a pas eu lieu. Hein. Refaire l'histoire avec des si, avec un groupe de chercheurs. On étudie si les Allemands avaient gagné la guerre. Qu'est-ce que c'est rigolo. Voilà, ça s'appelle les masterclass de France Culture, hein, qui est une radio dont on paye avec nos impôts pour nous informer. Et effectivement, De Gaulle, oui, il est encensé aujourd'hui comme Guy Môquet est encensé par Sarkozy. N'oublions pas que De Gaulle a été détesté par l'oligarchie financière et patronale pendant l'occupation. Hein. Ça a été un pis-aller. Pour les patrons, finalement, puisque le général a réussi à s'imposer.
Je fais une citation du général de Gaulle. On lui attribue « Je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes. Je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes. Et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. »
Je crois qu'on est vraiment dans le cœur d'une bataille du récit historique.
Ça ne se voit pas à l'antenne, mais André se prend déjà la tête dans les mains. Je sens que ça va chier.
Et quand ça va péter, ça va péter. Je vais essayer de placer nos trois mots avant de lâcher la bête.
Parlez sans vous émouvoir. En réalité, je suis d'un calme olympien.
Parce que je crois qu'en fait, on est dans le cœur d'une bataille de récits historiques et de récits mémoriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui domine la confection du récit mémoriel, ce sont les médias et l'école. Or, les médias appartiennent à une petite oligarchie. Et l'école, alors que ça soit du primaire jusqu'au supérieur, est aussi sous le contrôle d'un certain nombre de gens qui élaborent un récit. Ça se voit concrètement, bah, tu parles de Christian Ingrao, ce genre de choses. On sait que l'université, etc., élabore un certain nombre de récits. Et aussi que ceux qui confectionnent les programmes, là on a eu les dernières moutures du nouveau programme de Terminal, qui font qu'en fait, le récit historique est totalement broyé, on doit aller très très vite. Et donc on va vers des simplifications de simplifications de simplifications de simplifications, qui fait que De Gaulle devient le père de la sécurité sociale, fait que le 18 juin est la date fondatrice de la résistance française, etc., et que toute la résistance s'est ralliée à De Gaulle sans coup férir, etc. Et on enlève comme ça toutes les aspérités et en fait toute la vérité. On pourrait y voir seulement, il faut faire de l'histoire aux enfants, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc. Sauf que certains esprits mal placés, tels que les nôtres, pourraient dire qu'il y a peut-être justement une volonté délibérée d'arriver à un récit débilisant qui permet en fait d'empêcher de penser. D'abord, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait tout un truc sur les écrits de jeunesse de Gaulle en faisant quasiment l'équivalent de Charles Péguy, etc. Bah, c'est un gamin qui, effectivement, quand il écrit, alors il écrit bien, hein, c'est un bon élève.
Nous, son milieu, quand même. De Gaulle, c'est pas un fils d'ouvrier. Hein.
Non, il est issu de la petite noblesse militaire française, catholique, monarchiste. Quelqu'un qui, effectivement, dans sa jeunesse, a des écrits à la fois nationalistes, patriotes. C'est bien écrit. Mais c'est pas Charles Péguy non plus, quoi. Et là, on en fait, vous voyez, on lit les lettres de jeunesse de De Gaulle, vous voyez, en faisant, voilà, qu'il avait déjà en lui ce qu'il allait devenir plus tard. Alors qu'on sait très bien que, bon, l'histoire fait que on ne suit pas forcément les premières voies du début. Et là, vous voyez, il y aurait un espèce de récit préécrit.
Un destin, un tout petit déjà, De Gaulle perçait sous le nourrisson, etc. Bon.
Et donc ça, c'est complètement débile. Enfin, ça n'a pas de sens. On peut prendre les écrits de jeunesse des uns et des autres qui correspondent pas forcément à ce qu'ils vont faire après. Encore, l'histoire fait que, on change.
Il y a un contre-exemple. Tu prends Mitterrand, qui paraît-il est un grand homme de gauche, et qui pourtant a été décoré de la Francis que par le maréchal Pétain lui-même, hein, mais sinon il était socialiste.
Mais par exemple, voilà, Mitterrand est issu d'un petit milieu réactionnaire, de bourgeoisie provinciale, etc. Et ensuite, il aura son évolution politique. Ensuite, bien sûr, il y a le mythe du 18 juin. le 18 juin, aujourd'hui, dans un certain nombre de médias, est présenté comme la base fondatrice du mouvement de résistance.
Personne ne l'a entendu.
Sauf que personne ne l'a entendu parce que le 18 juin à 15h, les gens avaient autre chose à foutre que d'écouter Radio Londres.
Rappelons quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et que même la TSF, la télégraphie sans fil, c'est-à-dire la radio, très peu de foyers en étaient équipés. Et qu'effectivement, à cette époque-là, la plupart des Français étaient sur les routes de l'Exode en train de se faire mitrailler par des ch'toukas et qu'ils avaient autre chose à faire que d'écouter la radio.
Et leur principale préoccupation, c'était de trouver de l'eau et de la bouffe, éviter de se faire mitrailler la gueule. Donc l'appel du 10 juin de Gaulle, ça n'a touché que quelques personnes. Alors voilà, ensuite il y a des éléments fondateurs, mythiques, l'île de Sein, mais personne n'a entendu l'appel du 10 juin. Très peu. Et ensuite, effectivement, l'appel du 22, parce qu'il a été renouvelé le 19, le 22. D'ailleurs, c'est le 22 qu'on a enregistré.
Le texte que l'on a n'est pas l'appel du 10 juin, c'est l'appel du 22. Corrigé sur l'exigence de Churchill.
Il faudra quand même bien le dire, de Gaulle, il n'existe que parce que Churchill veut bien, pour faire chier les Américains.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon temps, l'intérêt supérieur de la patrie.
Lorsque de Gaulle arrive à Londres, bon, il est reçu et il est accueilli par Churchill. Il y a plusieurs milliers de Français à Londres. Et alors, de Gaulle a dit de ces Français, les Français de Londres se divisent en deux. Ceux qui sont partis aux États-Unis et ceux qui veulent partir aux États-Unis. C'est-à-dire le faible crédit au départ de Gaulle. Ils sont une poignée de gaullistes, de gens qui rejoignent. Ils sont très peu nombreux. En fait, il part de pas grand-chose et il va fonder la France libre sur les troupes coloniales qui restent dans notre empire colonial et qu'il veut retourner, récupérer. Mais c'est pas simple du tout. Quant à ses rapports avec la résistance, je laisse parler Cédric.
Décembre 1940, comptabilisation de la France libre, c'est 2000 personnes. Comme disait Churchill, il a un tel ego qu'on croirait Staline avec ses 200 divisions derrière lui. Quoi. Alors évidemment, il croit en son destin. Et il croit à son idée que la guerre n'est pas finie, etc. Il y croit sincèrement et il va effectivement mettre toute son énergie. Mais dans la réalité, c'est un personnage qui est complètement cyclotimique et extrêmement dépressif et qui a des phases de dépression très marquées parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'il veut et la réalité des faits. Et de gommer ça, c'est gommer l'aspérité du personnage et tout compte fait son humanité. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a toujours été extrêmement sûr, etc. Il a énormément de doutes. Et notamment parce qu'il rencontre des conflits politiques importants, notamment avec les Américains. Roosevelt ne veut pas entendre parler de ce général d'opérette.
Roosevelt déteste De Gaulle, le prend pour un putschiste d'extrême droite, nationaliste, et un type pas sérieux, et un aventurier, etc., et ne veut pas en entendre parler. Jusqu'à Alger, en 1943, Roosevelt essaye de s'opposer à De Gaulle et à la France libre.
Les Américains se seraient très bien contentés du régime vichiste qui était déjà en place, on en parlera tout à l'heure.
De Gaulle est un personnage cyclotimique. À plusieurs reprises, il a pensé à se suicider. Et en particulier, lorsqu'il essaie de rallier les troupes coloniales de Dakar.
Fin septembre 1940, De Gaulle va en Afrique pour faire basculer les troupes coloniales dans son armée de la France libre, ce qui lui permettra d'exister face aux Américains qui le détesteront toujours. Et on ne le dit jamais, mais je vous le dis et je vous le répète, ce sont essentiellement des Noirs et des Arabes qui ont libéré les Gaulois. Mais cette opération de retournement des troupes coloniales, qui en 1940 était encore sous contrôle de Vichy, démarre par l'échec de Dakar.
Ils montent une opération militaire sur le port de Dakar qui échoue. Et pendant un certain temps, ils pensent que tout est foutu. Un certain nombre de témoins disent qu'ils pensent à se suicider.
Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans, que j'ai affaire à l'histoire. Il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar, où avec mes compagnons ayant essuyé le feu des forces françaises qui tiraient sur les Français libres, alors que l'ennemi était à Paris, j'ai douté qu'on pourrait jamais les retourner contre l'envahisseur de la France.
Et à plusieurs reprises, De Gaulle, cette espèce de roc qu'on nous présente, qui il est un roc. Mais les pierres les plus dures ont leurs fissures. Comme en 68, moi je reste persuadé que le fameux départ de De Gaulle en mai 68 n'est pas une sorte de coup de poker machiavélique.
il se sent rejeté, il a un coup de blues. Et...
Oui, il va chialer dans les jupes de Massuc.
Oui, si on veut.
Il emmène sa famille en hélicoptère, sa famille, ses bagages, etc. Et il a l'intention de quitter la France.
Il est déprimé, il est abattu et il pense à l'exil.
Oui, c'est Massuc qui le reçoit à Baden-Baden.
68.
On connaît le canard enchaîné, Baden-Baden. Alors, Massuc, toujours aussi con. Toujours gaulliste, mon général.
Quand on fait de l'histoire, il faut donner toutes les aspérités d'un personnage, toutes les imperfections, tous les moments de doute, plutôt que de tomber dans une mémoire, effectivement, hagiographique qui n'apporte rien.
On parle de la complexité du personnage, parlons aussi de la complexité du peuple français et parisien, hein, puisque Pétain... Alors que les carottes sont cuites depuis un moment, fait une tournée triomphale au printemps 44 qui passe par Paris. Hein, tout Paris est là pour acclamer le maréchal. Et puis quelques semaines plus tard, tout Paris est là. Les mêmes sont là pour acclamer le général. Hein, dès l'été 41, on sait que les nazis savent qu'ils vont perdre. Dès que le Blitzkrieg échoue dans les plaines de Russie dès l'été 41. Hein, on n'a même pas attendu la Rasputitsa pour comprendre que les Américains allaient gagner, puisqu'ils fabriquaient plus de chars que les nazis, voilà, mécaniquement. Tout de suite, Churchill et De Gaulle avaient des rapports très très ambigus. Mais pourquoi De Gaulle? Parce que les Anglais savaient qu'ils allaient perdre leur empire colonial. Et plutôt que leur empire colonial tombe entre les mains des Allemands, les Anglais avaient déjà compris très tôt que leur empire colonial tomberait dans les mains des Américains. Pourquoi De Gaulle? Et bien pour ralentir ce processus. Et c'est pour ça que les Anglais ont financé De Gaulle et sa version de la résistance pour mettre un peu de grain de sable dans les rouages de la machine à broyer américaine qui allait s'emparer du monde après-guerre. Ça, tout le monde l'avait déjà compris. Mais De Gaulle, c'est rien sans l'argent anglais. De Gaulle, sans les Anglais, il est rien. Alors, il y a de nombreuses anecdotes hein, qui illustrent ces rapports compliqués entre le français et l'anglais. Un jour, en Angleterre, au cœur de la guerre, Churchill invite De Gaulle à un bal masqué. Alors évidemment, hein, vous imaginez pas De Gaulle se pointer à la soirée déguisé en colombine ou en cow-boy. Le général arrive dans son uniforme de général De Gaulle. Et Churchill, qui lui était peut-être déguisé en arlequin, accueille De Gaulle au bal masqué et lui dit « Ah, je vois que vous vous êtes déguisé en général français inconnu. » Alors si les relations de De Gaulle avec Churchill sont compliquées, ambiguës, parfois conflictuelles et même violentes, les relations de De Gaulle avec les Américains seront toujours épouvantables. Roosevelt, qui déteste De Gaulle, fera tout pour que l'obscur général Giraud, qui cache à peine son pétainisme, devienne l'incarnation d'une France, bien sûr pilotée par les Américains, Cédric.
On a une opposition avec Henri Giraud, le général Giraud, qui a eu un parcours très tortueux, mais qui à Alger... Alors, il était soutenu par les États-Unis, il n'était pas l'homme des Américains, il avait une certaine distance, mais c'était quelqu'un qui incarnait pour les Américains une possibilité d'évolution ou de remplacement du régime de Vichy lorsque l'occasion se présenterait.
À noter quand même que Giraud, qui était prisonnier en Allemagne, qui avait déjà plus d'une soixantaine d'années, se serait soi-disant évadé, comme dans les films, avec une corde faite avec des draps tressés, se serait évadé d'une forteresse allemande pour, par miracle, arriver en Afrique.
Mais Giraud, c'est très logique, là, de l'appui des Américains au général Giraud, qui est un pétainiste, hein, un type hyper légaliste, etc. Parce que ils ont, dès avant l'opération Giraud, les Américains, par l'intermédiaire de leur ambassadeur en France, auprès du régime de Vichy, commence déjà à retourner les élites françaises. C'est très très visible dans le livre de Lacroix-Riste, du pétainisme à l'Amérique. Hein,
élite française 40-44.
C'est très net, et t'as déjà des gens qui, de 41 à 42, s'aperçoivent que le vent va tourner, que le prochain maître, ce sont les États-Unis, et t'as des pétainistes pur port, hein, qui vont se mettre au service de la future domination américaine, dès 1942.
Même dès l'été 41, on a compris que l'Allemagne va perdre.
De Gaulle, c'est l'emmerdeur dans ce schéma américain. Et donc, les Américains vont tout faire pour empêcher De Gaulle. Et ils font pression sur Churchill. Churchill a bien compris qu'il ne fait pas le poids par rapport aux Américains. Il a besoin des Américains, hein, militairement, économiquement, et que les Américains vont gagner. Donc, il est obligé aussi de ménager les Américains. Donc, les quelques fois où Churchill va s'opposer à De Gaulle, en particulier dans l'opération Giraud au début... Hein, c'est parce que les Américains font pression sur Churchill. Et donc De Gaulle, là, il est très déprimé à ce moment-là. Et on peut penser aussi que c'est à cette époque-là où il va accélérer la politique de regroupement, de la résistance intérieure. Parce qu'au départ, c'était pas dans le schéma gaullien de faire une résistance intérieure. Les forces françaises libres, c'était les forces extérieures militaires qui vont arriver et puis qui vont réinstaller un régime en France, libérer la France. Et De Gaulle va donc être forcé politiquement pour changer le rapport de force, de faire une réunification. Il a besoin de Brossolette, il a besoin de Moulins, etc. Et c'est pas simple, parce qu'il y a dans la résistance non communiste, anticommuniste, il y a des gens fortement opposés à De Gaulle. Freinet n'aimait pas De Gaulle, hein. Combat, etc. Ça s'est pas passé tout seul, hein. En fait, ils sont anti-gaulliens. Les principaux opposants à l'action de Jean Moulin, c'est les résistants non communistes. Alors le problème, évidemment, pour De Gaulle, c'est qu'ils sont obligés de faire alliance avec les communistes, parce que c'est la plus grosse résistance armée. Il est contre, au départ, la lutte armée. Quand les communistes, à partir de 41, se lancent dans la lutte armée, c'est-à-dire les attentats, les trucs comme ça, De Gaulle est contre. Il dit non, il y a trop d'otages fusillés, etc. Attendez qu'on vous libère, en gros, c'est ça. Mais bon, les communistes, évidemment, ils n'écoutent pas De Gaulle. Hein. Ils sont dans la lutte, si tu veux. Et donc, De Gaulle va devoir faire l'alliance. C'est le CNR qui va se former. Ça ne s'est pas fait tout seul. Mais c'est un appui énorme pour De Gaulle. Parce que lorsque, ensuite, De Gaulle vient à Alger, là, il représente déjà la France. Il a une légitimité que lui donne l'appui de la résistance intérieure.
André, hein, tu l'as dit, l'essentiel de la résistance efficace, hein, contre l'occupant nazi, ce sont les communistes, ce sont les FTP. Dès 41, dès que l'Allemagne nazie agresse l'Union soviétique et rompt le fameux pacte germano-soviétique, la situation se clarifie. Mais notons que les communistes sont en résistance et en clandestinité bien avant que la première botte nazie ne foule le sol de France, puisqu'il y a eu les décrets-lois d'Aladier et que les communistes ont été embastillés par la fin du Front populaire. Les communistes, ils sont déjà en résistance des 39, et que si effectivement les Duclos, les apparatchiks parisiens du PCF étaient ambigus dans le machin, les gens de la base, j'ai discuté avec des ouvriers, avec des FTP, les ouvriers, les gens de la base, ils n'étaient pas dupes de cette histoire, ils savaient très bien que ce pacte germano-soviétique de 39 était la réponse du berger à la bergère et faisait écho au pacte de non-agression que la France et l'Angleterre ont signé avec les nazis en 1938. Ça s'appelle les accords de Munich.
Et dès le mois de juillet 1940, l'appel et la résistance de la direction communiste existent et est signé par Thorez et Duclos. Juillet 40.
Et en fait, là, De Gaulle fait preuve d'une intelligence politique et d'un machiavélisme politique à Alger, où CFLN, Comité Français de Libération Nationale, était plutôt pour Giraud, voire pour Darlan. Et il y a l'élimination physique de Darlan, son assassinat, où on a vu la main de De Gaulle derrière peut-être, ou des Anglais, enfin bref. On a les récits de Saint-Exupéry sur cette ambiance de panier de crabe à Alger en 43-44. Et là, on voit effectivement une histoire beaucoup plus complexe avec un personnage, De Gaulle, qui fait de la politique, et ça passe par des éliminations physique, politique, hein, en l'occurrence celle de Giraud. Et là, on fait de l'histoire, on fait pas de la mythologie. C'est pas cracher sur De Gaulle que de dire ça. Raconter ce qui s'est réellement passé, ça évite de tomber dans des schémas simplificateurs en disant « Oh mon Dieu, c'était le chef de la résistance française, tout le monde s'est rallié à lui, etc. » Non, c'est un phénomène très complexe qui se met en place, dans lequel il a fait preuve d'intelligence. Il a une intelligence politique, il a des réseaux qu'il met en place, et là, on fait de l'histoire.
De Gaulle, enfin ça c'est le truc, hein, qu'on s'est empressé d'oublier, mais il était haï. Pourquoi, c'était quoi son grand crime? C'est qu'on avait bien compris que pour avoir une assise nationale, De Gaulle allait être obligé de s'appuyer, de faire alliance au moins ponctuelle avec les communistes. On le lui fera payer par l'intermédiaire de l'assassinat de Jean Moulin. Hein, Jean Moulin a quand même été balancé aux nazis par un Français. Et le grand crime de De Gaulle, c'est d'avoir voulu faire alliance avec ces sales cocos.
Oui, à propos de cette alliance avec les sales cocos, mon père qui était dans la résistance, dans un réseau de résistance, disait qu'il n'avait pas d'armes. Les seuls parachutages d'armes qui se faisaient en France se faisaient au bénéfice des réseaux non communistes. Les Anglais ne voulaient pas parachuter d'armes. Par exemple, le Vercors a été vaincu parce qu'il n'avait aucune arme, alors qu'il aurait été possible de parachuter des armes lourdes, anti-chars, etc., dans le Vercors. On a laissé massacrer le Vercors parce que les Anglais ne voulaient pas parachuter. Faut pas oublier quand même que les Anglais restent anticommunistes, hein, et donc ils veulent bien aider la résistance française à condition qu'elle soit pas trop rouge quand même, pas trop pro-soviétique, on va dire. Bon. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que même une fois De Gaulle installé, regroupant et représentant la France libre, les Américains n'ont pas perdu l'espoir d'installer une autorité d'occupation militaire. L'AMGOT, c'est une organisation américaine d'occupation de la France. Alors même que De Gaulle existe, la résistance existe, les Américains veulent passer par-dessus et puis installer une administration. D'où la précipitation, la hâte de De Gaulle d'installer des commissaires politiques, d'installer des préfets à partir du débarquement de 44, de prendre possession du pays, parce que c'est des Américains dont il se méfie. Et d'ailleurs, dans cette politique de récupération des cadres, il veut pas qu'il y ait trop de communistes. Tu vois, il va pas nommer des commissaires politiques et des préfets communistes. Hein, donc, il y en a certes issus de la résistance, mais beaucoup de ces cadres, ce sont des cadres récupérés du péténisme. C'est le cas de Papon. On récupère Papon, qui est un secrétaire de préfecture de la Gironde, hein, alors que bon, il s'est drôlement mouillé dans le péténisme, parce que De Gaulle a besoin de cadres qui ne soient pas des cadres communistes aussi.
Et là aussi, on voit une dimension politique là qui n'est quasiment jamais évoquée. C'est que pour revenir au pouvoir, il a besoin de cadres, et que ces cadres, effectivement, il ne va pas les trouver dans la résistance, ou bien, effectivement, ils sont tellement orientés politiquement que ce n'est pas possible. Et donc, il va rallier tout un tas de péténistes en mettant en place une mémoire falsifiée de l'occupation et de la réalité de la collaboration. Par exemple, si on prend le cas Papon, c'est pas par ignorance du passé de Papon. Le BCRA, il y avait un service secret gaulliste qui notait les gens. Papon a été classé très clairement comme ultra-collaborateur, notamment sur la question juive, hein, quelqu'un qui était un pétainiste acharné, etc. Mais malgré ça, effectivement, il va occuper les plus hautes fonctions très très rapidement, jusqu'à devenir préfet en 1961. Hein. Sa fidélité va durer longtemps, hein, parce que De Gaulle fait de la politique.
Une histoire drôle, alors on en prête beaucoup hein, autour du général De Gaulle, on ne sait pas si elles sont toutes exactes, mais elles disent des choses. 1943, des Français qui, jusque-là, trouvaient le maréchal très bien, rejoignent De Gaulle à Londres. Et alors voilà ce type qui arrive à Londres avec une magnifique croix de Lorraine sur son veston. Et De Gaulle le reçoit. Il dit « Oh, mais vous avez une magnifique croix de Lorraine. Comme elle est belle. Comme elle est grande. Comme elle brille. Comme elle est neuve.
» Cette anecdote, c'est Malraux qui l'a raconté à la Libération. Ils sont dans la banlieue du Mans. De Gaulle salue la foule, etc. Une femme sort des rangs avec une magnifique gerbe de fleurs et au nom de la ville, s'approche de De Gaulle et crie hein, flamboyant « Vive le maréchal !» Et là, elle tombe confuse. Elle devient toute rouge, etc. Et De Gaulle de lui mettre la main sur l'épaule. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous y habituerez.
Ces anecdotes nous en apprennent autant sur la réalité historique, en tout cas beaucoup plus que les récits qu'on a sur nos radios soi-disant intellectuelles. La construction du mythe dont parle fort justement Cédric continue après la Libération. Après la Libération, bon, il y a le gouvernement provisoire de la République française qui devient le gouvernement de la République française et avec les élections, etc. Et c'est la Libération. Et là, il y a eu rupture. Et quelle rupture ? Et se reconstitue la politique française. De Gaulle est le président de la République, hein, puisqu'il démissionnera qu'en 1946. Mais donc, il est obligé, De Gaulle, de composer avec des gens qui, en même temps, le légitiment, mais en même temps, ne sont pas tout à fait d'accord avec lui. En particulier, les communistes et les socialistes sont majoritaires. La sécurité sociale et les grandes réformes de la Libération se font non pas contre De Gaulle, il faut pas penser que De Gaulle est un homme complètement socialement réactionnaire, etc. Mais enfin, c'est pas un projet de De Gaulle. De Gaulle, c'est pas qu'il est indifférent à la situation sociale ou économique, mais il a une certaine idée de la France. C'est quand même un nationaliste, un patriote. Je dirais pas qu'il considère cela comme des détails, mais c'est pas De Gaulle qui a fait la sécurité sociale. C'est essentiellement la CGT, les communistes, une partie des socialistes et de la MRP se sont mis d'accord pour un système de protection sociale tout à fait révolutionnaire, extraordinaire. Pour ce qui est du contrôle politique du pays, déjà avant même la Libération proprement dite, De Gaulle est en quête de cadre politique et il y a l'épuration après la guerre. L'épuration, au départ, est une opération sauvage, c'est-à-dire que les gens qui ont souffert de persécutions de la part du régime de Vichy, de la milice, etc., se vengent. C'est des vengeances, c'est des exécutions. Hein. Et ils ne se sont pas énormément trompés. On savait qui, la plupart du temps, avait trahi, etc. Et les gens, sur les quelques milliers, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 000 personnes, après une guerre civile aussi grave, qui a fait autant de morts, autant de victimes, autant de déportés, L'épuration d'après la guerre, ça n'a pas été un bain de sang. Faut pas exagérer quand même, hein. Bon. Et c'était des gens qui étaient coupables de crimes de sang qui ont été exécutés. C'est pas simplement des gens qui portaient la francisque, hein, et qui criaient vive le maréchal.
Bien. C'est surtout les clampins qu'on payait, hein, des trucs comme ça. Mais enfin bon, monsieur Schneider, monsieur De Vindel, monsieur Worms, tout ça, les banquiers, les financiers, eux. Si Renault quand même est passé à la savonnette à vilain.
Alors très vite, De Gaulle installe des tribunaux spéciaux pour réguler ça, pour rendre, tu vois, plus légitime la justice populaire qui s'exerce à cette époque-là. Il arrête ces exécutions sommaires, etc. D'ailleurs, c'est l'époque où les maquis communistes se désarment, abandonnent leurs armes. Très officiellement, le Parti communiste dit que c'est fini, la lutte armée est terminée, maintenant c'est la lutte politique. Il y a quand même une adhésion. Il est possible que certains ici et là aient planqué des armes, n'empêche qu'elles n'ont pas servi à une guerre civile prolongée, ou à une prise de pouvoir à la bolchevique par les communistes, et qu'ils se sont engagés très honnêtement, les communistes, dans la lutte politique. Ils font un choix, les communistes.
Démocratiquement au pouvoir.
Démocratiquement au pouvoir. Mais malgré tout, De Gaulle, si tu veux... Il veut récupérer des pétainistes, bien sûr. D'ailleurs, le Canard Enchaîné fait un jeu de mots sur le MRP, le principal parti de droite démocrate chrétien. Il l'appelle le mouvement à récupérer les pétainistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un recyclage de beaucoup de gens qui avaient été, disons, assez pétainistes, plus ou moins pétainistes, un peu beaucoup passionnément à la folie, etc. Hein, pendant la guerre, ils sont recyclés dans la politique. Alors, beaucoup de gens vont ainsi s'en sortir. Prenons la figure de André Bettencourt, qui a été mon député de la 5e circonscription de Seine-Maritime quand j'étais jeune, enfant, etc. Enfin, il a été mon député, j'ai jamais voté évidemment pour ce type-là, mais il a été pendant la guerre pétainiste. Mais vraiment dans les milieux pétainistes, son beau-père Schuller, hein, L'Oréal, le créateur de la maison L'Oréal, etc., a été un pétainiste convaincu et d'ailleurs a subi une condamnation politique, pas grave, je vous rassure tout de suite, après la guerre.
Puisqu'on parle à nouveau d'Eugène Schuller, je ne résiste pas au plaisir de vous passer une fois de plus ce document dont on ne se lasse décidément pas dans cette émission. Nous voilà en 1941 et le fondateur de L'Oréal se félicite publiquement de ce que le maréchal Pétain appelait la révolution nationale du régime fasciste de Vichy.
Nous sommes en pleine révolution, mais cette révolution n'est pas seulement nationale, c'est une révolution mondiale, universelle, je dirais même que c'est la plus grande des révolutions humaines. Nous sommes dans une immense mutation, un ordre de choses s'en va, un autre vient.
L'Oréal.
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 Parce que je le vaux bien.
Parce que je le vaux bien.
Parce que je le vaux bien.
À l'instant, Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal et papa de Liliane Bettencourt, enthousiasmé par les merveilleuses perspectives ouvertes par le régime fasciste du maréchal Pétain et sa révolution nationale. Alors, arrêtez d'acheter du L'Oréal rien qu'à cause de ça. Mais soyons justes, hein, la plupart des industriels fabricants de produits de beauté et autres parfums ont tous collaboré avec le Troisième Reich. On pensera notamment à Coco Chanel, qui était un agent nazi. Mais de toute façon, globalement, hein, la plupart des industriels français ont, entre 40 et 44, fait de très très bonnes affaires avec l'occupant et amassé dans la collaboration de considérables bénéfices. Alors pour en revenir à André Bettencourt, beau-fils de Schuller et mari de Liliane, comment ce collabo notoire a-t-il donc réussi à passer au travers du filet de l'épuration, André ?
Il s'est mis à un brassard, FFI, et puis est devenu un grand animateur de l'association pour le retour de nos prisonniers. Mais il avait écrit dans la gerbe un hebdomadaire antisémite, pétainiste, et pourri pendant la guerre. Donc ce type qui était un pétainiste a été récupéré par De Gaulle sans aucun problème. Il est devenu ministre du général De Gaulle. Je crois qu'il a même été un bref moment ambassadeur. Enfin, il a eu des plus hautes fonctions politiques en France. Et donc De Gaulle n'avait aucun scrupule à employer des gens dont il savait très pertinemment quel était le passé. Hein. Parce que De Gaulle, c'est un conservateur. Sa préoccupation, De Gaulle, c'est une préoccupation du destin national. Refaire de la France une grande puissance, une grande nation qui compte dans le concert international, c'est une question de prestige aussi. Et là-dedans, la sécurité sociale, les communistes, des trucs comme ça, ça le barbe un peu. En revanche, De Gaulle est tout à fait favorable aux grands projets de nationalisation et de création d'une industrie nationale qui, après la guerre, qui va redonner du prestige à la France. Hein. Mais ça, c'est la 4e République. De Gaulle a besoin de récupérer des gens qui sont des conservateurs, De Gaulle est quand même un conservateur, c'est pas un révolutionnaire, et donc il a besoin d'appui politique. Et d'ailleurs, c'est en désaccord avec les partis politiques communistes, socialistes, et que De Gaulle démissionne en 1946. Il pense que les gens vont aller le rechercher en disant « Oh non, revenez, t'en vas pas comme ça, sans me laisser la moindre chance. » Enfin bref, en fait, personne va le récupérer. Et là, il va traverser une période vachement difficile, De Gaulle, jusqu'en 1958, parce qu'il voudrait bien revenir au pouvoir, mais comment ? Et il y a des gens qui vont lui suggérer que, à la faveur de la crise coloniale, il peut peut-être revenir au pouvoir.
J'ai eu la tentation de me retirer en 1946, quand, submergé par le torrent stérile des partis sur lequel j'avais pas de prise, et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté.
En fait, toute la période du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, donc qui dure de l'été 44 jusqu'à octobre 46, date de naissance de la 4ème République, nous est présentée dans les médias. Et nous, en classe, vu la brièveté du temps qui est consacré, on est obligé plus ou moins de faire des raccourcis qui amènent à penser que c'est une période d'union nationale, d'union sacrée, dans laquelle, effectivement, des pétainistes récupérés jusqu'aux communistes, sous la tutelle bienveillante du général de Gaulle, tout le monde s'est entendu pour, effectivement, reconstruire la France et construire la sécurité sociale. C'est faux.
C'est le ministre communiste Ambroise Croizat qui sera le principal artisan de la mise en place de la sécurité sociale.
Donc De Gaulle devient social, etc. Ce qui nous emmène jusqu'à maintenant, lorsque Macron nous pond sa réforme sur la sécurité sociale en disant « Ah bah oui, mais Ambroise Croizat l'aurait voulu. » Et voilà, on mélange tout, tout le monde veut le bonheur du peuple et donc tout le monde s'unissera. Non, il y a des forces contradictoires qui s'opposent, des forces économiques, des forces politiques, parce que c'est comme ça. Et là, on voit à quoi sert le mythe et la mémoire falsifiée. Ça sert à justifier des évolutions présentes dans lesquelles on confond tout, tout est mélangé, et abattre la sécurité sociale devient en fait le projet. Ambroise Croizat aurait souscrit à ce projet-là, quoi. On arrive à du n'importe quoi. Cette mémoire falsifiée, c'est pas seulement fait par de gentils crétins et des gens qui prennent des raccourcis parce que c'est plus simple à expliquer au peuple. On peut y voir un projet délibéré de crétinisation qui a pour but de faire passer une volonté politique actuelle libérale.
Daniel.
Le rapport de De Gaulle et la sécurité sociale, j'ai été bercé enfant par l'idée, mais c'est De Gaulle qui a créé la sécurité sociale, ce qui est quand même très largement faux. Alors, il y a des gaullistes qui sont à l'initiative du projet, qui sera finalisé par Ambroise Croizat et qui est le compromis historique et politique du CNR. Et pour De Gaulle, la sécurité sociale, c'est l'intendance utile, comme élément pour cimenter l'Union nationale, car son projet principal est un projet patriotique. Je pense que si De Gaulle accepte cette idée de sécurité sociale, c'est simplement comme élément de ciment, de consolidation de l'unité nationale. Et par ailleurs, les premières attaques contre la sécurité sociale, elles se font sous De Gaulle, mais le De Gaulle président de la 5e. C'est les ordonnances du gouvernement Pompidou qui fait marche arrière sur un certain nombre de remboursements de la sécurité sociale. Et ce qui était intéressant, c'est que De Gaulle, avec les communistes, accepte l'idée de sécurité sociale comme ciment de son projet patriotique, mais De Gaulle, sans les communistes, est le premier à ouvrir les premières brèches dans le système de sécurité sociale.
Oui, on pourrait comparer, si tu veux, la position d'une partie des cadres politiques de la France, des cadres non communistes après la libération, un petit peu comme les jacobins sous Robespierre, enfin sous le comité de salut public, qui acceptent des mesures politiques de maximum des prix, de contrôle de l'économie, sous la pression des sans-culottes, des milieux populaires, parce que les milieux populaires sont indispensables à cette époque-là, en 93, pour défendre la République contre la contre-révolution, contre l'invasion étrangère, etc., il faut avoir ces milieux. Ceux qu'on appelait les montagnards, dans la Convention, ce sont les gens qui acceptent de faire une alliance avec les milieux populaires pour sauver la République. Et ils vont très loin, donc, dans les mesures sociales, parce que c'est une façon de s'allier avec les gens qui vont leur permettre de sauver la République. Bon, un peu De Gaulle, c'est un petit peu ça aussi. Il va jusqu'à s'allier avec l'ennemi de classe, on pourrait dire, que sont les communistes, parce que c'est la seule façon aussi de se donner d'abord de la légitimité et de prendre le pouvoir après à la libération, et ensuite après de gouverner. Ensuite après, il se trouve un peu à l'étroit de cette alliance et il va démissionner. Mais jusqu'en 1946, c'est un petit peu la politique de compromis de De Gaulle.
Et donc, en fait, sa démission...
En janvier 1946.
N'est vue uniquement sous l'angle institutionnel, c'est-à-dire d'un conflit institutionnel sur ce que doit être la 4e République, ce qui va devenir la 4e République. Et donc, on nous présente, en fait, d'un côté, des communistes et des socialistes qui vont prendre la 4e, qui va être nulle, mal, parlementaire, etc., qui va mener, effectivement, à l'instabilité ministérielle, etc.
Tout ça était beaucoup trop démocratique, ça pouvait pas marcher.
Alors que De Gaulle, visionnaire, effectivement, avec le discours de Bayeux, effectivement, plante déjà ce qui va être la 5e République, qui, elle, fonctionne vachement bien, parce qu'on sait très bien que tout le monde adore la 5e République, et qu'elle fonctionne super bien. Et donc, voilà, on nous présente, là aussi, une vision très simpliste d'un De Gaulle visionnaire, parce que lui avait la bonne idée, etc., alors que tous ces connards en face, ils pensaient 4ème République, parlementarisme, etc., ont fait un régime merdique qui s'est planté, et que voilà, si on lui avait donné les manettes du pouvoir, lui, on aurait fait un truc super, et ça aurait tout de suite bien fonctionné. Alors, ensuite, il y a la parenthèse de 12 ans qui emmène à la reprise du pouvoir, qui là aussi est souvent présenté comme voilà, le retour du fils prodigue qui rétablit la paix civile, etc. etc.
Le mythe du général romain Cincinnatus qu'on vient chercher pour sauver la République alors qu'il est en train de labourer son champ. Tu parles, tout ça était un complot hein, qu'on a expliqué en deux émissions que vous pouvez réécouter sur notre site, polémix et lavoixoff.com. De Gaulle, en 58, arrive au pouvoir sur les épaules des parachutistes dans le cadre de ce qui est un complot et un putsch.
C'est la fameuse opération Résurrection.
Résurrection, résurrection, résurrection.
Qui a attesté, c'est pas des propos de complotistes, vous voyez, au fond d'un jardin, qui racontent des choses immondes, etc., en ne reposant sur rien. C'est attesté par une multitude de sources écrites, de témoignages oraux, y compris de gens de gaullistes. C'est véritablement un complot au sens propre du terme, avec la manipulation, etc. Et de façon très opportuniste, il va revenir au pouvoir.
On s'étonne que la 5ème République fonctionne mal. Continuera-t-on à s'étonner quand on aura compris que ce régime est né dans le cadre d'un coup d'État militaire ? André ?
Oui, alors, De Gaulle arrive au pouvoir en 58, avec une grosse ambiguïté.
Je vous ai compris !
Dans un très gros malentendu. En effet, il arrive sur les épaules, c'est une image hein, des militaires, qui pensent que De Gaulle va garder l'Algérie française. Une grande partie des soutiens de De Gaulle dans cette aventure politique, ce sont des militaires colonialistes qui veulent maintenir l'Algérie française. Donc il va s'appuyer sur ces gens-là. Alors, De Gaulle se garde bien de donner plein de cautions, mais enfin, il reste extrêmement ambigu, et les gens pensent que De Gaulle va garder l'Algérie française.
Vive l'Algérie française !
De fait, De Gaulle va poursuivre pendant 4 ans la guerre, mais pour négocier. Négocier en position de force, avec le FLN en particulier, il voudrait bien garder le Sahara, parce qu'on y a commencé des essais nucléaires, et puis parce qu'il y a du gaz et du pétrole. Donc garder ces ressources-là, et puis n'accorder l'indépendance qu'au nord de l'Algérie. Hein. Bien sûr, très très vite, les pieds noirs, Algérie française et une bonne partie des cadres militaires, hein, je ne parle pas des soldats, mais effectivement, s'aperçoivent que De Gaulle est en train de leur faire un enfant dans le dos. Hein. Je crois que c'est en 59 que De Gaulle parle d'autodétermination, qui est une sorte d'euphémisme pour ne pas parler d'indépendance ou d'Algérie algérienne. Et il commence les premiers pourparlers avec le FLN, je crois que en 1960, il voudrait bien qu'il y ait un cessez-le-feu, donc il dit au FLN, il faut laisser les poignards au vestiaire, c'est encore une formule de De Gaulle ça, mais il commence à prendre contact, et donc les gens qui ont soutenu De Gaulle commencent à le haïr, et vont essayer à plusieurs reprises de le renverser. Et de l'assassiner.
Et de l'assassiner, le petit Clamart.
Bien sûr, mais avant cette tentative d'assassinat du petit Clamart, il y a une tentative de putsch en 61, des généraux d'Alger.
Ils partiront, généraux en retraite.
Ouais. Et l'extrême droite, le lepénisme au départ, hein, l'extrême droite française, c'est la récupération de tous ces vieux aigris, anti-gaullistes acharnés, anti-communistes, mais aussi anti-gaullistes, qui considèrent que De Gaulle les a trahis littéralement et que c'est un salopard. J'en ai entendu, moi, tu vois, des gens qui se sont oubliés à me parler de De Gaulle comme ça, dans ces termes-là. Violent, quoi. Hein.
Cédric.
De fait, il s'agit d'une trahison politique vis-à-vis, effectivement, de cette droite colonialiste, etc. Et là, de ne pas dire les choses, de passer en disant, voilà, il a réglé la question algérienne, etc. Voilà, plop, plop, plop. Ces raccourcis-là nous empêchent de voir l'absurdité d'un discours d'une Marine Le Pen qui aujourd'hui se dit héritière du gaullisme, etc., etc. Alors que si on fait un petit peu d'histoire,
on voit que l'extrême droite française actuelle, donc Rassemblement National aujourd'hui, qui prend essence sur le Front National, est né dans les milieux, effectivement, qui ont voulu dessouder De Gaulle, et pas seulement politiquement, en le tirant une balle dans le crâne. Voilà, Le Pen et compagnie, voilà, tous les OAS, etc. Et faire de l'histoire, quoi, non, c'est pas attaquer De Gaulle. Non, il a fait de la politique extrêmement habile. Il est revenu sur un coup d'État à peine masqué. Et ensuite, il a trahi ceux qui l'ont amené au pouvoir. Il a politiquement bien joué, dans son sens.
Alors, il y a une chose importante qu'il faut dire aussi sur De Gaulle et le gaullisme. Pour prendre le pouvoir en 58 et ensuite après pour combattre l'OAS et l'extrême droite qui voulait sa peau, De Gaulle a eu recours à des barbouzes. Ce qui est né à cette époque-là, hein, c'est les SAC, les sections d'action civique, mais aussi un certain nombre d'officines de tueurs, de barbouzes, qui lui ont été nécessaires pour éliminer l'OS discrètement, mais radicalement. Et par la suite, le régime de De Gaulle, faut le dire, hein, jusqu'à la fin, le style De Gaulle, c'était « je veux pas savoir ce qui se passe dans mes cuisines », mais enfin, c'est quand même pour De Gaulle qu'il y a eu des assassinats, des enlèvements, des trucs comme ça. L'affaire Ben Barka, c'est sous De Gaulle, là. Où...
C'est les fondations de la France-Afrique aussi, de Exactement. Ce qu'on a appelé. Voilà, le bureau de Focard, le grand artisan de la France-Afrique, était contigu à celui de De Gaulle. Ça me fait penser à un mot de Clémenceau, d'ailleurs, qui avait un exécuteur des basses œuvres qu'il méprisait cordialement. Clémenceau disait « voilà, quand c'est moi qui pète, c'est lui qui pue ».
C'est exactement ce que je veux dire, parce que De Gaulle, qu'on présente comme un anticolonialiste, etc., c'est un pragmatique. Il n'est pas anticolonialiste, De Gaulle, c'est un pragmatique par le discours de Brazzaville.
1944.
Qu'on présente comme un grand truc pour la libération de l'Afrique, non. Il a besoin d'avoir des soldats indigènes, des soldats africains pour étoffer les forces françaises libres, etc. Et donc, il a un discours lénifiant en face des élites africaines, de celles qui existent déjà à cette époque-là. Mais c'est pas un anticolonialiste. Quant à l'affaire algérienne, c'est extrêmement pragmatique. Prolonger une guerre en Algérie comme ça affaiblit la France. Et contre-productif pour son dessein, qui est un dessein national et patriotique. Et donc, il faut arrêter la guerre d'Algérie. Et donc, il l'arrête, la guerre d'Algérie. Il va essayer, en Algérie, comme dans les autres pays, d'établir un système néocolonial. C'est quand même De Gaulle qui réinstalle la France-Afrique, c'est-à-dire un système néocolonial de continuité de l'exploitation des ressources africaines, en mettant des États fantoches, d'ignobles régimes fantoches qui prolongent jusqu'à nos jours, il y en a encore des traces de cette époque de la France-Afrique, et en opérant des coups d'État à l'américaine, c'est-à-dire qu'on assassine les gens, la guerre du Gabon, mais surtout en Cameroun, tragique, on a assassiné des gens, etc. Ça a quand même été fait par les armées françaises. C'est l'aspect noir du régime de De Gaulle. Tripatouillage au profit des intérêts français. Tu as dit tout à l'heure qu'à certaines époques, le patronat était contre De Gaulle. Il y a aussi des époques où le grand patronat était pour De Gaulle et où les intérêts néocoloniaux français ont soutenu De Gaulle à fond, puisque le système Focard et les soldats français permettaient le maintien d'intérêts considérables en Afrique noire et ailleurs.
Il y a la phrase de Saint-Just, hein, « on ne gouverne pas innocemment ». On voit comment De Gaulle, effectivement, pour son objectif politique, utilise tous les moyens qui sont à sa disposition, voire en créer avec le SAC, par exemple, pour créer encore plus de force de frappe. Et aussi, dans son discours, voyant qu'il y a une partie de la droite qui bascule dans un anti-gaullisme qui peut être, pour lui, physiquement dangereux, va accentuer son discours, pour le moins ambigu, vis-à-vis de la mémoire du maréchal Pétain. Ainsi, on voit lors des commémorations de Douaumont en 1966, où il fait un discours pour le moins très ambigu sur le pétainisme, le maréchalisme, la collaboration.
On a eu un relan il n'y a pas très longtemps de la part de Macron. Hein. Bon, il y avait le bon Pétain, hein, celui qui n'a rien foutu en 17, mais le méchant qui était un peu douteux avec les Juifs en 42.
Il y a ce discours dans lequel il dit qu'au crépuscule de sa vie, il a pu avoir quelques errances. Pour en fait passer la brosse à reluire à tous les anciens combattants qui étaient devant lui et qui avaient été pour la large majorité maréchalistes pendant la guerre. Et là, hop, pour les prendre, pour éviter qu'ils filent avec les anciens de l'OAS, etc., pour qu'ils lui fassent la peau. Et donc on voit comment quelqu'un comme De Gaulle, effectivement, trafique allègrement la mémoire et la réalité historique à des fins politiques et utilise des services d'action secrets, commandite des coups d'État pourris au fin fond de l'Afrique. Et là, on ne dit pas des méchancetés, on n'est pas méchant avec De Gaulle. On fait de l'histoire. On raconte des choses qui se sont réellement passées.
Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
C'était en 2018, Emmanuel Macron rendait hommage à Pétain. Mais Macron n'est pas le seul. Hein. Pendant son règne, François Mitterrand, qui, comme chacun sait, était un grand homme de gauche, hein, décoré par Pétain de la Francisque, donc François Mitterrand faisait lui aussi fleurir la tombe du maréchal.
Mais comme le général de Gaulle, comme Georges Pompidou, et comme Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que Mitterrand, en fait, continuait la politique d'avant lui. Le général de Gaulle faisait fleurir, à la date de sa mort, la tombe du maréchal Pétain. Mais pas la tombe du méchant collaborateur. Celui du héroïque général de Verdun. Et comme ses successeurs l'ont fait.
Moi, je veux dire du bien de Gaulle. Sa politique étrangère a été quand même quelque chose de fulgurant. En 58, De Gaulle arrive au pouvoir quand la 4e République s'est couchée devant l'impérialisme américain. Les socialos, les MRP, les radicaux, enfin tout ce qu'il y avait de partis politiques, depuis la SFIO jusqu'à la droite la plus classique, tous ces gens-là baisaient le cul des Américains, s'étaient couchés, alors le plan Marshall, etc. Enfin, ils étaient atlantistes, tout à fait dévoués à la politique impérialiste des Américains. De Gaulle arrive là-dedans et va instituer une politique complètement nouvelle. Alors certes, c'est une politique qui s'est appuyée sur la force nucléaire, c'est-à-dire l'établissement d'une force nucléaire de dissuasion tous azimuts. C'est ainsi qu'on la présentait. Mais quand même, malgré tout, il y a eu des discours de De Gaulle et il y a une orientation de la diplomatie gaullienne qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est même plus un souvenir aujourd'hui au Quai d'Orsay.
C'est De Gaulle qui vire les bases américaines et les Américains du pays en 66.
Voir à quel point la politique d'autonomie diplomatique française et de vision française du monde est en rupture par rapport à la classe politique française, je dirais ordinaire. En 66, lorsque De Gaulle prépare son projet de non pas de sortir de l'OTAN, comme on l'a dit, mais du commandement intégré de l'OTAN, ce qui suppose effectivement que les troupes américaines présentes sur le sol français soient évacuées, il réunit quelques dizaines de parlementaires pour préparer le terrain, députés et sénateurs, et il y avait de nombreux députés centristes, le CDS de l'époque, démocratie chrétienne, etc., atlantiste et pro-américaine. Et il présente son projet. Et un sénateur centriste s'adresse au général, lui dit « Mais mon général, est-ce que les Américains sont d'accord ?»
Autre pied de nez aux Américains, en 1967, en voyage au Québec, De Gaulle lâche son fameux
« Montréal, vive le Québec !»
Proclamation anti-américaine. C'est également, je crois, la même année où il fait à Phnom Penh un discours où il dit, alors que la guerre du Vietnam s'intensifie, où il dit il n'y a pas de solution militaire en Indochine, enfin au Vietnam. À l'époque, les Américains détestent, haïssent De Gaulle. Et De Gaulle, c'est également le premier à avoir noué des relations diplomatiques avec la Chine communiste. Hein, à avoir envoyé un ambassadeur et à nouer des relations. Et c'est également De Gaulle qui a établi des relations normales, je dirais, diplomatiques et économiques avec le bloc soviétique, etc. Enfin, il dit d'ailleurs, je ne fais pas d'accord avec des régimes politiques, je fais des accords avec des États. Pareil, par exemple, il établit des rapports tout à fait amicaux avec Franco. Hein. Et à ceux qui lui reprochent, ils disent, la France n'a pas de relations avec des régimes politiques, mais avec des États. C'est-à-dire qu'il établit une sorte de souveraineté diplomatique de la France vis-à-vis des États-Unis, quand même. Il réfute la suprématie américaine. C'est une chose, quand même, qui casse la logique de l'affrontement Est-Ouest. C'est quand même une chose importante.
On a évoqué toutes les facettes sombres et machiavéliques du général de Gaulle. Cela dit, moi, il y a un truc aussi qui force ma sympathie, c'est que suite à son coup d'état de 58, finalement, de Gaulle, comme un dictateur censitaire, c'est-à-dire que de Gaulle était un dictateur, mais l'appui du peuple lui importait. Suite à son coup d'état de 58, de Gaulle fait valider finalement ce putsch par un référendum dont la question était, Daniel...
Ben, c'était l'approbation de la nouvelle constitution à la fin de l'année 58. Hein.
une grande responsabilité nationale incombera donc à vous toutes et à vous tous, à moi-même, que vous connaissez bien, après tout ce que nous avons fait ensemble, dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance.
Et effectivement, il a l'onction du suffrage universel.
Référendum en 58, on valide finalement hein, son coup d'État et son putsch. 10 ans plus tard.
Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Il y a 68. Là, De Gaulle, c'est pareil, sous une question annexe. Bon, mais finalement, la vraie question qui est posée aux Français, c'est voulez-vous que je reste ou voulez-vous que je m'en aille ? Et là, 11 ans plus tard, avec ce référendum de 69, les Français lui disent non, va-t'en. Et De Gaulle s'en va. C'est ça qui force mon admiration, c'est que tous les voyous qui ont succédé sur le trône de France après De Gaulle, hein, dans le cadre de cette 5e République née dans un coup d'État militaire, tous les voyous qui ont succédé à De Gaulle n'avaient pas cette dimension, disons, morale et éthique. C'est-à-dire qu'on imagine mal Chirac, Sarkozy, Hollande ou ce qu'on a actuellement devant la désapprobation populaire, se barrer du pouvoir parce que les gens ne veulent plus d'eux. Donc Cédric, est-ce que c'est pas un trait du général de Gaulle qui peut un peu forcer notre admiration ou notre estime ? C'est-à-dire que le gars est un dictateur, mais quand ils sont qu'on veut plus de lui, bah, il s'en va.
Il est héritier d'une tradition politique qui combine à la fois une dimension bonapartiste, qui a besoin en fait de légitimer un régime autoritaire sur un fondement populaire. Et il a une partie légitimiste, où on retrouve la grandeur de l'État, le roi qui doit être inattaquable, etc., etc. Donc il est héritier de ces dimensions-là. C'est un personnage qui s'est converti à une forme de démocratie. Donc tout ça, c'est un petit peu mélangé et ça en fait un personnage très complexe. Et en termes mythologiques, si il est déréalisé, c'est que, en fait, la personnalité de De Gaulle recoupe 4 mythes importants, à la fois Alexandre le Grand, le guerrier jeune, dynamique, qui va renverser la table, le mythe de Moïse, le prophète, 18 juin, la guerre n'est pas finie, en pleine débâcle. Le mythe de Cincinnatus, le vieux général à la retraite qu'on vient chercher pour sauver le pays qui part en quenouille. Et Solon, le législateur, celui qui crée la bonne constitution. En fait, c'est un personnage sur lequel on peut mettre des mythes. Et lui, il cumule les 4. Parce que souvent, un homme politique, il va appuyer sur un mythe ou 2 mythes. Et lui, en fait, il appuie sur les 4 mythes fondateurs. Et si bien que ça va aller au-delà de la réalité, et on gomme la réalité au profit des mythes. Voilà, c'est l'homme du 18 juin, c'est voilà, l'homme de la résistance, c'est l'homme qui fait ressusciter la France avec la 5e République, etc., etc. Tout en gommant la réalité du personnage, qui est une réalité d'un homme ancré dans son temps, et qui, avec moult moyens plus ou moins condamnables, effectivement, va gouverner et diriger et faire des choix.
La dimension d'un géant d'autant plus gigantesque qu'on est gouverné par des nains.
Des nabos, c'est vrai ce que tu dis. Quand on compare, dès qu'on étudie De Gaulle, quel changement d'échelle avec les crapules microscopiques qui nous gouvernent actuellement, des minables, méchants mais minables.
Et justement, qui essayent de se parer des oripeaux du gaullisme en disant qu'ils sont plus gaullistes que tu meurs et que chacun va récupérer. Alors c'est avec Chirac qui avait complètement trahi le message gaulliste, qui s'attribue l'image du gaullisme, puis tous ses successeurs de droite, Sarkozy et toute la clique, et maintenant les centristes et les gens d'extrême droite qui sont tous plus gaullistes les uns que les autres.
Oui, mais et votre succession ? Parce que ça ne pourra pas durer toujours. Un jour viendra, un peu plus tôt, un peu plus tard, où ce ne sera plus le cas, et où De Gaulle disparaîtra. Où sont les libertés publiques que j'ai détruites ? C'est moi qui les ai rendues. Je les ai rendues quand je suis rentré en France en 1944, je les ai rendues toutes. Il n'y en avait plus. J'ai supprimé la censure, je ne l'ai jamais rétablie.
Et voilà, c'est ici la fin de cette nouvelle spéciale De Gaulle que tu peux réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com, ainsi que d'autres émissions consacrées à ce personnage incroyable. On te conseille notamment notre série en 2 épisodes dédiée au putsch de 1958 qui accouchera donc de notre formidable 5e République qui marche si bien, hein, comme chacun sait. Il te suffit de taper 1958 dans le moteur de recherche de polymixetlavoixoff.com. Merci au copain prof d'histoire géo que tu retrouveras bientôt sur cette même antenne, même lieu, même heure. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. 101.5 FM.
Remember you.
Remember me.